Vous écoutez On lit pour vous.
Éthique et collaboration avec les communautés autochtones, la pratique ethnographique et les angles morts de la bureaucratie de la recherche. Un texte d'Émile Duchesne, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique. Introduction. Je mène des recherches en anthropologie depuis 2015 chez les Innus de Unamen Chipu, une communauté autochtone de la basse Côte-Nord au Québec. Ma méthode privilégiée est la recherche ethnographique. Concrètement, je réside pendant de longues périodes dans la communauté pour partager le quotidien des gens. Aussi, je participe à des expéditions de chasse de plusieurs semaines sur le territoire. La pratique ethnographique implique généralement une participation radicale à la vie sociale des personnes avec qui l'anthropologue travaille. Dans mon cas, cette expérience immersive permet de comprendre de l'intérieur le point de vue des Innus sur des sujets tels que leur cosmologie, le rapport aux animaux, l'histoire, etc. Mes apprentissages orientent les questions que je pose lors des entrevues avec mes collaborateurs qui sont pour la plupart des Innus unilingues détenteurs de savoir. Ce genre de recherche de terrain ne peut être réalisé sans une approbation éthique d'une instance universitaire et une reconnaissance institutionnelle par la communauté d'accueil. Il s'agit là d'un impératif dicté par les universités, les organismes subventionnaires du gouvernement fédéral canadien et l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador. La recherche autochtone jouit actuellement d'un engouement pratiquement sans précédent. Certaines communautés autochtones voient débarquer un nombre impressionnant d'équipes de recherche sur leur territoire. Cet afflux dépasse bien souvent les capacités d'accueil des communautés, de sorte que des mécanismes internes doivent être mis en place pour les encadrer. La situation actuelle n'est pas si loin de ce que Vinay Deloria décrivait dans son célèbre essai de 1969 « Custer died for your sins ». Every summer, when school is out, a veritable stream of immigrants head into Indian country. From every rock and cranny in the east, they emerge, as if responding to some primeval fertility rite, and flock to the reservations. They are the anthropologists. À cela aujourd'hui, on pourrait ajouter les géographes, les historiens, les biologistes, les sociologues, les chercheurs en santé, etc., qui sont de plus en plus nombreux à faire de la recherche en contexte autochtone. La prolifération de ce genre de recherche et l'imposition de balises éthiques pour les encadrer ne se sont toutefois pas faites sans une certaine bureaucratisation des relations de recherche, les formulaires, les protocoles et les demandes administratives sont plus nombreuses que jamais, et ce, pour tous les acteurs de la recherche, y compris pour les Autochtones. D'ailleurs, les communautés autochtones ne sont pas toutes outillées de la même façon pour faire face à ces nouvelles réalités. Cet article montre les défis de réaliser une recherche avec une communauté autochtone qui dispose de peu de moyens administratifs pour accueillir des chercheurs. L'argument principal est que le fondement d'une bonne collaboration se situe non pas dans les protocoles bureaucratiques, mais dans la capacité du chercheur à agir dans le respect des prémices de socialité qui sont propres aux collectivités avec lesquelles ils travaillent. La place des chercheurs dans une communauté Innu. L'isolement et les faibles ressources de la communauté d'Unamen Chipu ont fait en sorte que la communauté n'a pas vécu l'afflux de chercheurs que d'autres communautés vivent actuellement. En effet, comme la communauté n'est pas reliée au réseau routier, il est difficile de s'y rendre sans connaître préalablement des personnes sur place. De même, l'absence d'une politique locale pour encadrer les activités de recherche fait probablement que les demandes de recherche ne font peut-être pas toutes l'objet d'un suivi. La situation n'a pas toujours été ainsi, car de nombreux anthropologues ont visité la communauté depuis les années 1970. On peut penser à des chercheurs bien connus dans ma discipline, tels que Rémi Savard, Paul Charret, Sylvie Vincent, Peter Armitage et de nombreux autres encore. En 2003, l'anthropologue Denis Gagnon, à la suite d'une recherche ethnographique à Unamen Chipu, notait que cette communauté est la collectivité Innu la plus étudiée et la plus visitée par les anthropologues. On peut même parler d'une certaine saturation de chercheurs dans cette communauté. La communauté d'Unamen Chipu est particulière car virtuellement tous ses membres parlent la langue Innu au quotidien. L'isolement de la communauté a également fait en sorte que la chasse, la pêche et la cueillette y prennent une plus grande importance qu'ailleurs. En cela, il s'agit d'une communauté idéale pour étudier la culture traditionnelle Innu et ses expressions contemporaines, d'où cet important afflux d'anthropologues depuis les années 1970. Cependant, dans les dernières années, la communauté fut pratiquement désertée par les chercheurs. Depuis que je la fréquente, je n'ai pas eu conscience d'autres anthropologues qui l'aient visitée. Il y en a peut-être eu, mais on ne m'en a pas parlé. Par contre, j'ai eu conscience que des chercheurs ont fréquenté Unamen Chipu pour des projets de recherche mis en œuvre par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, APNQL, Santé Canada ou avec l'École de la communauté. J'ai cependant rencontré beaucoup de journalistes, cinéastes et artistes qui fréquentaient la communauté pour leur travail, mais pas d'anthropologues. Bref, malgré un passé récent où les chercheurs abondaient dans cette communauté, il est difficile de parler aujourd'hui d'une saturation comme le faisait Gagnon il y a 20 ans. En cela, la situation d'Unamen Chipu est différente de celle des autres communautés autochtones situées plus au sud. À cet égard, l'anecdote qui suit est parlante. En 2018, je participais à un colloque sur les méthodes collaboratives en recherche autochtone au congrès annuel de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, ACFAS, à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'étais accompagnée de mon ami Normand Junior Bellefleur, alors élu au conseil de bande de sa communauté, pour présenter un projet de transmission culturelle que nous souhaitions mettre sur pied. Le projet consistait essentiellement à organiser une expédition sur le territoire avec des jeunes et des aînés afin de favoriser la transmission de savoir relié aux canaux et aux portages, ce que nous avons fait l'automne suivant le colloque. Beaucoup de participants, non autochtones pour la plupart, décriaient l'afflux trop important de chercheurs dans les communautés autochtones. Certains ont avancé des chiffres. Telle communauté aura reçu plus de 70 demandes de recherche l'année dernière. À mesure que les témoignages s'accumulaient, mon ami Junior décide de prendre la parole. J'entends dire qu'il y a trop de chercheurs dans les communautés autochtones et qu'on ne sait plus quoi en faire. Pouvez-vous m'expliquer alors pourquoi personne ne vient nous voir à Unamenchipu? Pourtant, on n'est pas méchants. Son intervention en a fait rire plusieurs. C'était d'ailleurs l'intention principale de Junior, mais il n'a pas vraiment reçu de réponse à son interrogation. Tout cela pour dire qu'au Québec, il y a des communautés autochtones qui reçoivent un nombre démesuré de demandes de recherche et d'autres qui n'en reçoivent pratiquement pas. Les premières sont généralement très organisées et ont des comités qui encadrent la venue des chercheurs. Pour les secondes, on adopte généralement une attitude de cas par cas, mais souvent leurs moyens limités, au point de vue financier, institutionnel et des ressources humaines, font en sorte qu'ils ne peuvent faire autrement. Vous écoutez Éthique et collaboration avec les communautés autochtones, la pratique ethnographique et les angles morts de la bureaucratie de la recherche. Un texte d'Émile Duchesne, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique. Mon expérience avec la communauté d'Unamenchipu me fait dire qu'il est difficile pour un chercheur d'obtenir l'encadrement institutionnel qui est souvent demandé par les protocoles et les comités d'éthique lorsque les communautés ont peu de moyens pour le faire. Je me souviens encore des démarches préalables à ma recherche de maîtrise. J'avais alors demandé à rencontrer un élu du conseil de bande pour parler de ma recherche. Il avait fallu que j'insiste un peu pour qu'il accepte de me rencontrer. Je lui explique mon projet brièvement, en lui expliquant que je dois avoir l'accord de la communauté. Il me questionne alors. « J'ai entendu dire que tu restais chez telle personne. J'ai aussi vu que tu avais des amis ici. Alors, je ne comprends pas ce que je peux faire de plus pour toi. » Je me fais un peu plus clair. Je dois seulement avoir une personne qui atteste que ma présence est autorisée. L'élu rit un peu et me dit finalement qu'il n'y a pas de problème. Chez les Innus et les peuples algonquins en général, il n'est pas bien vu de se mêler des affaires des autres, car l'autonomie personnelle y est grandement valorisée. Alors, si des gens me parlent et participent à ma recherche, qui est-on pour les empêcher de le faire? La situation aurait peut-être été différente si j'avais été un travailleur d'Hydro-Québec, un garde-chasse ou un autre représentant de la société coloniale auquel les Innus préfèrent ne pas avoir affaire. Il faut aussi dire que la communauté d'Unamenchipu dispose de moyens financiers limités, surtout lorsqu'on la compare à d'autres communautés autochtones qui ont signé d'importantes ententes avec les gouvernements et des compagnies privées. D'autre part, les employés du conseil de bande sont peu nombreux et souvent débordés par d'autres tâches plus importantes que d'encadrer un chercheur. Bref, je n'expose pas ce contexte pour me dédouaner de mes responsabilités éthiques avec la communauté. Je souhaite plutôt exposer les défis auxquels j'ai dû faire face pour remplir les exigences fixées par le comité d'éthique de mon université, exigences qui sont elles-mêmes basées sur les protocoles de l'APNQL et des organismes subventionnaires. Mise à part les dispositions sur le consentement libre préalable, et éclairé, qui sont applicables à toutes les entrevues faites par un chercheur, il était aussi demandé de faire approuver une demande de recherche par une institution communautaire reconnue. C'est pourquoi, pour ma recherche doctorale, j'ai ratifié une entente de recherche avec le directeur général de la communauté, avec l'accord du chef, qui a été informé du processus et qui a accepté de déléguer la ratification au directeur général. L'entente explique brièvement mon projet, mes méthodes et mon financement et évoque mes responsabilités envers la communauté. Assurer le consentement des participants, écouter les recommandations du conseil de bande et des aînés, interdire l'utilisation commerciale des données, mais surtout rendre disponibles les données et les résultats de la recherche à la communauté et aux participants. Bien que l'aspect légal et formel de ce genre d'entente soit important, il n'en demeure pas moins que le cœur d'une collaboration réussie ne se situe pas dans ce genre d'entente qui ne devrait jamais être vu comme une fin en soi. En effet, il me semble plutôt qu'une collaboration réussie trouve sa source dans la construction d'une relation de confiance qui prend sa source dans le respect des formes locales de socialité. Les différentes nuances de la recherche collaborative. Bien que les protocoles de recherche, comme ceux de l'APNQL ou l'énoncé de politique des trois conseils, éthique de la recherche avec des êtres humains, stipulent qu'il est préférable de faire une recherche dite collaborative, j'ai jugé que je n'avais pas les moyens pour le faire. Par recherche collaborative, on entend généralement que le sujet de la recherche est décidé par les autorités des communautés et qu'un processus de suivi formel soit engagé entre la communauté et le chercheur. Implicitement, la recherche doit répondre à un besoin concret. Pourquoi est-ce que j'affirme que je n'avais pas les moyens de faire ce genre de projet? Premièrement, aucun employé ou élu du conseil de bande n'avait l'espace nécessaire dans son agenda pour assurer un suivi de mes activités. D'autre part, je ne voulais pas non plus imposer du travail supplémentaire non payé à des gens qui sont déjà fort occupés. Il aurait toujours été possible de créer un comité de suivi, mais je vois mal comment un tel comité aurait pu fonctionner à long terme sans que les gens soient compensés financièrement ou autrement pour leur implication. Pour que ce genre de démarche puisse fonctionner, il me semble qu'il faut soit que la communauté dispose des ressources pour le faire, soit que le chercheur les fournisse. Or, en tant qu'étudiant au doctorat, je ne disposais pas de ressources financières suffisantes pour faire vivre un comité de suivi, et la communauté n'en disposait pas non plus. Mais au-delà des technicalités d'un tel suivi, j'ai l'impression que c'est une démarche que les gens de la communauté ne trouvaient pas nécessaire dans mon cas. Il n'y a donc pas eu de co-construction du sujet de recherche avec les autorités politiques de la communauté, comme cela est souvent prescrit dans les protocoles en recherche autochtone. En revanche, il est indéniable que le sujet s'est co-construit, par la force des choses, au fil de mes discussions avec les aînés détenteurs de savoir. En effet, il est assez frappant que je n'ai jamais pu réussir à réaliser un projet de recherche que j'avais formulé avant d'aller sur le terrain. Constatant le manque d'intérêt des gens sur place, j'ai souvent dû réorienter mes projets pour les faire cadrer avec les préoccupations de mes interlocuteurs. Il me semble d'ailleurs que toute démarche anthropologique sincère est marquée par un engagement profond envers les gens avec qui l'on travaille. C'est bel et bien l'idéal que je me suis donné et que j'ai voulu démontrer dans les paragraphes précédents. Cette recherche s'appuie sur un tissu de relations que j'entretiens depuis 2015 et ces relations sont basées sur des obligations réciproques dont les critères sont propres aux Innus, mais aussi aux peuples algonquiens plus largement. Autrement dit, les gens d'Unamenshipu savent qu'ils peuvent compter sur moi lorsque mon expertise sera nécessaire. Au jour le jour, cela se manifeste de manière encore plus concrète en participant aux tâches de la vie quotidienne, en contribuant monétairement aux dépenses de ma famille d'accueil, en donnant et recevant des nouvelles lorsque l'on est éloigné, etc. Alors, pourquoi dis-je que je n'ai pas fait une recherche collaborative? Comme l'a souligné Marie-Pierre Bousquet, le mot « collaboratif » est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces dans les projets de recherche. Dans certains cas, on sous-entend même qu'en dehors de la recherche collaborative, il n'y aurait point de salut. À l'instar de Bousquet, je pense que les recherches collaboratives en viennent à être instrumentalisées comme une fin en soi, alors qu'elles ne devraient être qu'un moyen. Cela fait partie du travail du chercheur de décider si c'est le meilleur moyen pour mener sa recherche en tant qu'expert de sa discipline. Ma démarche de recherche se situe ainsi davantage du côté de la recherche fondamentale. Elle ne vise pas à opérer un changement comme le ferait une recherche-action ou à répondre à un besoin précis et délimité. Cela ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais d'application dans le futur ou qu'elle ne réponde à aucun besoin. De manière générale, les gens du Namenshipu sont très contents que les voix de leurs aînés soient enregistrées, valorisées par une recherche, mais aussi et surtout archivées pour le bénéfice des générations futures. D'autre part, je n'ai pas senti que mes interlocuteurs aînés souhaitaient collaborer plus que ce qu'ils ne l'ont fait dans le cadre de ma recherche. Pour prendre un exemple, à l'hiver 2019, au lac Noir-Clair, je partageais la tente d'Atouan, un aîné détenteur de savoir très respecté dans sa communauté et qui ne parle que la langue Innu, avec un ami qui avait mon âge. Ayant un appareil photo supplémentaire, je me suis dit que je pourrais le prêter à Atouan pour qu'il puisse documenter notre expédition à sa façon. J'y voyais une façon de décentrer mon rôle et de favoriser la collaboration. Atouan ne parlant que la langue Innu, je demande à mon ami de lui expliquer que je lui passais l'appareil photo pour qu'il puisse documenter lui-même notre expédition. Atouan répondit qu'il n'avait aucun problème à ce que je le prenne en photo. Je demandai à mon ami d'insister pour qu'il prenne l'appareil photo. Atouan répondit encore une fois que c'était plutôt à moi de prendre les photos. Après quelques allers-retours du genre, Atouan finit par prendre l'appareil photo et le rangea dans son sac pour ne plus jamais y retoucher du voyage. Visiblement, la recherche collaborative n'intéressait pas du tout Atouan. Il me semble que cette anecdote exprime comment certains collaborateurs experts, dans ce cas-ci les aînés détenteurs de savoir, sont tout à fait à l'aise d'être consultés dans le cadre d'une recherche. Il s'agit pour eux d'une façon de performer leur autorité et de valider leur rôle d'expert culturel. Vous écoutez « Éthique et collaboration avec les communautés autochtones » la pratique ethnographique et les angles morts de la bureaucratie de la recherche. Un texte d'Émile Duchesne, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique. Les gens d'Unamen Chipu, qui ne sont pas des experts, ont sensiblement le même sentiment, car lorsqu'on les questionne sur certains sujets plus pointus de la cosmologie et de la culture inoue, ils vont dire qu'ils savent de quoi je parle, mais que je ferais mieux de consulter un aîné pour avoir une meilleure réponse. En effet, aux yeux de tous, les aînés sont les personnes les plus compétentes pour parler de la culture, et ils le font avec autorité. La participation que j'ai demandée aux aînés est donc assez classique, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés à participer à des entrevues semi-dirigées. On ne souligne peut-être pas assez le fait que les entrevues semi-dirigées offrent un espace de liberté qui permet aux collaborateurs de faire état de leurs préoccupations et d'instruire le chercheur sur des sujets qui les préoccupent. Bien sûr, tout cela est conditionnel au fait que le chercheur soit capable d'écouter et de parfois mettre de côté son questionnaire d'entrevue. Dans mon cas, les témoignages de mes collaborateurs m'ont suivi bien au-delà des entrevues, notamment en orientant la suite de mes recherches dans les archives et dans le registre ethnographique comparatif. Ce sont même leurs témoignages qui ont orienté le thème de ma recherche. Ils ont fait de ma recherche une tout autre recherche. En effet, initialement, je devais parler de leur perception des changements climatiques. Comme mes interlocuteurs ne trouvaient pas que c'était un sujet particulièrement intéressant et qui, de leur point de vue, se résumait à peu de choses, les entrevues ont vite divergé vers l'histoire de la communauté, leur expérience à la chasse, les esprits maîtres des animaux, etc. D'ailleurs, il est révélateur que les témoignages les plus intéressants fussent, pour la plupart, non sollicités ou non attendus, c'est-à-dire qu'ils ne découlaient pas d'une question précise de ma part. À mes yeux, les entrevues les plus intéressantes, anthropologiquement parlant, étaient celles où j'ai posé le moins de questions. Il y a même une entrevue lors de laquelle je n'ai posé aucune question et qui est sans conteste l'une des plus extraordinaires au niveau de la richesse des données. Bref, mes interlocuteurs avaient des choses précises à me raconter et ils tenaient à ce que je les prenne en compte, ce que j'ai tenté de faire le plus possible. Malheureusement, selon mon expérience, ce genre de co-construction de la recherche est difficile à faire reconnaître auprès des comités d'éthique, des organismes subventionnaires et des autres acteurs de la recherche. Pourtant, elle est au cœur d'une démarche anthropologique sincère et elle est tout à fait cohérente avec les valeurs des Inuits avec qui je travaille, qui placent en haute estime l'écoute, l'apprentissage expérientiel et la réciprocité. La plupart des entrevues que j'ai faites pour ma recherche doctorale ont eu lieu en 2021, soit 7 ans après ma première visite à Unamen Chipu. Bien sûr, j'ai fait quelques entrevues ponctuelles avant cette date, avec les aînés que je connaissais le mieux. Cette situation a mené à un événement assez comique. Un soir d'automne en 2021, je buvais une bière avec mon père adoptif dans la petite tente inoue qu'il avait installée dans sa cour arrière. On discutait de choses et d'autres autour du petit poêle de tôle jusqu'à ce qu'il me demande si je faisais toujours ma recherche. « Bien sûr! Mais pourquoi tu me demandes ça? » lui avais-je répondu. Il me fit alors son petit exposé sur ce que, à ses yeux, un bon chercheur devait faire, car il en avait vu passer plusieurs chez son père lorsqu'il était plus jeune. Il conclut que je devais le plus rapidement possible aller enregistrer les aînés. Car voyant que je n'avais pas fait beaucoup d'entrevues, il trouvait que je n'avais pas l'air du tout d'un chercheur sérieux. Je lui expliquai que c'est précisément ce que je comptais faire dans les prochaines semaines. Je venais alors tout juste d'apprendre que je ne pourrais pas aller en forêt cette année-là. Je devais donc réorganiser mon calendrier de recherche. Ce soir-là, autour du feu, mon père adoptif me prodigua ses conseils sur la bonne façon de faire des entrevues avec les aînés. Au terme de la discussion, il a été décidé que j'engagerais sa sœur aînée comme interprète puisqu'elle avait déjà fait ce travail par le passé et qu'à la fin des entrevues, je donnerais 100 $ en cadeau aux aînés qui accepteraient de participer. Quand j'ai fait les entrevues en 2021, les aînés que j'ai consultés savaient déjà très bien qui j'étais, même si je n'avais jamais formellement rencontré la plupart d'entre eux. Ils avaient entendu parler de moi, de mes séjours au Nutchimit, c'est-à-dire le territoire forestier des Innus, des territoires que j'avais vus, des gens avec qui j'avais chassé, etc. Certains m'ont d'ailleurs accueilli en me disant « Je savais qu'un jour tu viendrais m'enregistrer ». C'est mon impression, mais je crois sincèrement que d'avoir attendu aussi longtemps avant de consulter les aînés pour de longues entrevues a fait en sorte que mes interlocuteurs se sentaient plus en confiance. J'étais aussi moi-même beaucoup plus compétent pour comprendre ce qu'ils me disaient puisque dans certains cas, j'avais moi-même vu les territoires dont ils me parlaient, ou sinon, j'étais capable de les situer au moins approximativement par rapport à d'autres points géographiques. Loin de tout comprendre ce qu'ils racontaient en Innu à Imun, j'étais toutefois capable de capter des bribes de ce qu'ils disaient et donc de suivre minimalement leur discours. De la même façon, par mes expériences depuis 2015, j'étais aussi plus en mesure de replacer les personnes, les notions et les événements à propos desquels mes interlocuteurs m'entretenaient. Les méthodes de recherche des disciplines autres que l'anthropologie prévoient rarement autant de temps pour assurer la collecte de leurs données dans un contexte autochtone. Les 7 ans que j'ai attendus avant de procéder aux entrevues feront certainement sursauter certains lecteurs. Mon expérience me dit toutefois que l'attente est payante et permet d'assurer de meilleures relations de recherche, de même que des données plus solides. Conclusion. Dans un contexte où de plus en plus de chercheurs fréquentent les communautés autochtones du Québec et du Canada, il était souhaitable que des balises claires soient implantées pour éviter les dérives et assurer des relations respectueuses. C'est ce qu'a permis le PTC2 et le protocole de l'APNQL. Cependant, parallèlement à cette implantation, on assiste à une bureaucratisation constante des relations de recherche avec les peuples autochtones. Cette formalisation des pratiques de la recherche s'est parfois faite, il me semble, au détriment des communautés qui sont moins bien outillées administrativement pour composer avec ces impératifs bureaucratiques. Dans cet article, j'ai voulu montrer comment des relations de recherche respectueuses pouvaient s'établir en dehors des impératifs bureaucratiques. Il serait trompeur d'affirmer que ces pratiques de collaboration s'inscrivent dans l'informalité, car les principes qui les sous-tendent sont au cœur des formes de socialité autochtone. Dans le cas des Innus, on parle de valorisation du respect, de la réciprocité, de l'écoute, du sens du travail, mais aussi de l'autonomie personnelle. En cela, il est tout naturel pour les Innus de considérer que les chercheurs qu'ils invitent chez eux doivent participer à la vie quotidienne et offrir une aide dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la recherche. Avec le temps, le chercheur s'intègre au réseau de réciprocité de la communauté qui l'accueille, et c'est la qualité et la profondeur de cet engagement qui permet des relations de confiance. De cette façon, le chercheur collabore ou co-construit son sujet de recherche, non pas à travers un processus de négociation politique, administratif et bureaucratique, mais en respectant les prémices de socialité des gens avec qui il travaille. Pour le meilleur et pour le pire, les chercheurs trouveront toujours un moyen de composer avec les formulaires et les impératifs bureaucratiques. En revanche, les communautés autochtones, elles, vivent très difficilement avec les personnes qui ne respectent pas leurs prémices de socialité. En cela, d'un point de vue éthique, cette dimension est la plus fondamentale de toutes. Il en retourne qu'au-delà des formulaires, des guides de recherche et des protocoles, c'est avant tout la personnalité du chercheur, mais plus particulièrement sa prise au sérieux des valeurs locales et son engagement dans la vie quotidienne qui détermine le succès de sa démarche dans un contexte autochtone. C'était « Éthique et collaboration avec les communautés autochtones, la pratique ethnographique et les angles morts de la bureaucratie de la recherche ». Un texte d'Émile Duchesne, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique.
Conférence de Munich, l'espoir d'endiguer la progression du VIH. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Même un peu avant le début de la 25e conférence internationale sur le sida, CIR, qui se déroulait du 22 au 26 juillet à Munich, en Allemagne, les résultats d'une étude provenant d'Afrique du Sud étaient plus que probants. En injection deux fois par an, on a pu mesurer l'efficacité du lenacapavir à 100% sur un groupe de jeunes femmes qui n'ont pas été infectées par le virus du VIH-SIDA. Dr Jean-Pierre Routy, médecin au Centre de santé de l'Université McGill, était à Munich. Nous l'avons rencontré. Fabriqué par la compagnie Gilead Sciences, son prix onéreux rebute les experts qui demandent à la pharmaceutique de le réduire. Par ailleurs, il a aussi été discuté d'une personne séropositive et greffée de la moelle osseuse et qui présente des signes de rémission, signifiant ainsi que le VIH n'est plus présent dans son sang depuis maintenant quelques années. Il y avait de quoi réjouir ces milliers de congressistes. C'est le premier congrès où on observe vraiment que la COVID est derrière nous et que plus de 15 000 personnes sont présentes et non pas en virtuel, fait remarquer le Dr Jean-Pierre Routy, médecin au Centre de santé de l'Université McGill, qui a assisté à ce rassemblement. C'est en quelque sorte une grande communion laïque de la lutte contre le sida, d'être tous ensemble et de célébrer tout le travail accompli par tous ces gens qui viennent du milieu de la recherche, de l'éducation, de la médecine, de la prévention, etc. C'est très vaste. C'est là où la couverture médiatique est très forte si l'on compare à la CROI, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, un congrès scientifique. Par exemple. C'était bien aussi de voir des gens provenant d'Afrique. Il y avait ainsi plus de 1000 personnes invitées par la CIR et cela faisait de très bonnes discussions sur la situation dans certains pays. Il y a ce sentiment d'être ensemble et de partager un grand moment. En 2023, un peu moins de 40 millions de personnes vivaient avec le virus du sida, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, révèle le rapport annuel de l'organisation. Environ 1,3 million de personnes ont été infectées l'année dernière, 2022, soit quelques 100 000 de moins qu'un an plus tôt, tel que le dit un article de Radio-Canada citant un nouveau rapport d'ONU-SIDA en amont de cette 25e conférence internationale. Il faut rappeler que plus de 42 millions de personnes sont décédées du sida depuis la découverte de cette maladie dans les années 1980. Pas un traitement miracle, mais... Comme lors de la conférence de Vancouver en 1996, où on annonçait l'arrivée des trithérapies, il y a eu une ovation debout lorsque la docteure Linda Gale Becker est venue présenter l'étude sur le lenacapavir, poursuit le docteur Routy. C'était un moment magnifique. C'était énorme parce que l'étude portant sur le lenacapavir ouvre bien des possibilités. Le lenacapavir a été efficace à 100% sur des jeunes femmes et des jeunes filles à risque d'être infectées dans ce rapport d'études d'Afrique du Sud. C'était incroyable. La docteure Linda Gale Becker est directrice et professeure au Desmond Tutu HIV Foundation de l'Université du Cap et ex-présidente de la Société internationale du sida de 2016 à 2018 qui organise ces grands congrès. Effectivement, le lenacapavir, Sunlenca, ne nécessite que 2 doses annuelles par injection. Il peut être utilisé pour la PrEP, traitement préventif. Il a été approuvé par Santé Canada en novembre 2022. Mais voilà, le lenacapavir est solitaire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un autre médicament pour l'aider et l'appuyer, explique le docteur Jean-Pierre Routy. Il lui faut un médicament d'une autre famille, malheureusement. Mais ce n'est que le début. La tendance de l'industrie sera maintenant de passer de la trithérapie à la bithérapie. On observe aussi que ce sont des médicaments moins toxiques qu'ils ne l'étaient. On va avoir des médicaments une fois par mois, comme le cabotegravir, produit par VIIV Healthcare en injection, par exemple. Encore là, on pointe vers la bithérapie. C'est un bel avancement qui ouvre bien des portes. Encore là, c'était extraordinaire de voir ça. Par contre, le gros bémol pour le lenacapavir est pour le moment son coût prohibitif, soit 55 000 $ présentement pour 2 doses. Je sais qu'il y a des débats très forts sur le prix du médicament. Il y a beaucoup de pression. L'image publicitaire de Gilead est tellement forte que cela pourrait lui être avantageux de plier. Je ne suis pas un spécialiste pour fixer les prix, mais je pense que Gilead pourrait faire un effort ici. La baisse serait compensée par le nombre de patients sous ce traitement, de commenter ce médecin qui est le directeur du réseau SIDA et maladies infectieuses, FRQS. Gilead Sciences va-t-elle entendre les adjurations des experts? Là est la question. Le nouveau patient de Berlin. Il y avait une autre bonne nouvelle. Puisqu'on a amplement discuté d'un patient greffé de la moelle osseuse et qui, de toute évidence scientifique, serait en rémission du VIH depuis quelques années. Cela a été révélé à quelques jours de la conférence, puis largement discuté par le milieu scientifique durant ce congrès. Mais de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, c'est un homme de 60 ans qui n'a pas voulu être identifié, qui a été déclaré séropositif en 2009, puis en 2015, et qui a reçu une greffe de moelle osseuse à la suite d'une leucémie. 6 ans plus tard, on constate qu'il n'a plus de charge virale, et ce depuis plusieurs années, alors qu'il avait apparemment cessé ses traitements antirétroviraux en 2018. Ce sont les données présentées par le Dr Christian Geibler de l'hôpital de la Charité de Berlin, qui est le médecin soignant de ce patient. « Le cas de ce patient est très évocateur d'une guérison du VIH », a-t-il déclaré à l'AFP. Ce patient allemand est vraisemblablement le 7e cas de rémission à long terme. Timothy Ray Brown était le premier patient de Berlin guéri du VIH-Sida en 2008, selon les scientifiques. Il a été emporté par un cancer en 2020. Mais voilà que le nouveau patient de Berlin a reçu des cellules souches de donneurs de moelle osseuse avec une mutation rare d'un gène appelé le CCR5, une mutation déjà reconnue dans les milieux du VIH-Sida pour bloquer l'entrée de ce virus dans les cellules. Ces donneurs avaient hérité de 2 copies du gène muté, une de chaque parent. Le nouveau patient de Berlin est le premier à avoir reçu des cellules souches d'un donneur n'ayant hérité que 1 copie, une configuration beaucoup plus courante faisant espérer davantage de donneurs potentiels. Ce patient a reçu 1 seul des 2 gènes et cela a marché. Cela a pu conduire à une guérison. C'est scientifiquement intéressant, mais c'est un tout petit pas dans la bonne direction, indique le docteur Jean-Pierre Routy. Cela a bien sûr été très médiatisé parce que le patient est allemand et que le congrès se déroulait à Munich. On pourra maintenant trouver plus facilement des donneurs. Il faudra que les 2 parents soient porteurs du gène CCR5. Mais la greffe de moelle osseuse reste très, très rare. Cela ne change pas grand-chose dans le quotidien, mais cela vaut la peine de poursuivre les études dans ce sens-là. Chaque conférence internationale sur le sida apporte des avancées scientifiques qui pourraient ouvrir la porte à de nouvelles cures. En tant que bénéficiaire de la trithérapie, d'une greffe entre donneur et receveur séropositif et de l'avancée I égale I, indétectable égale intransmissible, j'ai accepté que mon cas soit publié dans les médias grand public afin de contribuer à la déstigmatisation des personnes vivantes avec le VIH. Mon parcours montre combien les progrès médicaux ont transformé ma vie, mais ces avancées n'atteindront leur plein potentiel que si chaque individu, indépendamment de sa situation, peut accéder aux soins nécessaires. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination est essentielle pour permettre à tous de bénéficier des traitements disponibles sans crainte de jugement ou d'exclusion, de commenter pour sa part le Montréalais Denis Cormier-Piché, qui est le premier Nord-Américain à bénéficier d'une greffe d'organes entre donneur et receveur vivant avec le VIH-Sida. C'était « Conférence de Munich ». L'espoir d'endiguer la progression du VIH. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Comment punir les assassins au volant? Un texte de Stéphane Baliergeon, paru le 27 novembre 2024 dans Le Devoir. Le 8 mai 2022, Antoine Alénaud, 24 ans, ferme son petit restaurant, père et fils Burger, rue Grenelle à Paris, puis enfourche son scooter électrique pour reconduire chez elle son employée Anissa. Il a promis de la raccompagner pour lui éviter de prendre le métro qu'elle juge trop dangereux la nuit pour une femme seule. Antoine s'arrête à un feu rouge dans le 7e arrondissement, à l'angle de l'avenue Bosquet et de la rue Cognac G. Une Skoda Octavia s'arrête derrière. Une Audi RS6 arrive ensuite en trombe, percute la Skoda et fait un tête-à-queue. L'arrière du bolide fauche le fragile scooter. Antoine Aleno meurt sur le coup d'un traumatisme crânien malgré son casque. Anissa s'en tire avec de multiples contusions. Le jeune Francky Deplochin conduit la voiture de luxe. Il vient de la voler et de traverser le quartier avec des pointes à 120 km/h. Il n'a jamais eu de permis de conduire. Il est en état d'ébriété. Il s'enfuit après l'accident, mais un policier qui n'est pas de faction réussit à l'intercepter. Le chauffeur est poursuivi pour homicide involontaire aggravé. Le procès s'achève à Paris. Le procureur de la République réclame une peine de 8 ans d'emprisonnement avec interdiction de passer le permis pendant une décennie. La décision du tribunal est attendue le 28 novembre 2024. La cause est d'autant plus médiatisée que la victime est l'un des deux enfants de Yannick Aleno, chef français multi-étoilé. Le père et le fils avaient ouvert ensemble le restaurant en 2021. Le procès de l'humoriste Pierre Palmade, autre chauffeur intoxiqué ayant causé un accident aux terribles conséquences, a été encore plus scruté. Il vient d'aboutir à une condamnation de 5 ans, dont 2 fermes. Les deux causes ont également stimulé les débats sur la sévérité des peines et la nature des accusations. Yannick Aleno a décidé de s'y engager à fond en créant un organisme qui veut prévenir les violences routières et aider les victimes et leurs proches. L'association Antoine Aleno milite également pour la création d'un délit d'homicide routier qui remplacerait celui d'homicide involontaire sur la route. L'intoxication volontaire. L'idée porte. La proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a été déposée à l'Assemblée nationale en octobre 2023. Le projet transpartisan a été adopté à l'unanimité en janvier 2024. L'étape de la deuxième lecture au Sénat a été franchie fin mars 2024. Les élections législatives de l'été ont ralenti le processus qui a repris avec un nouveau dépôt le 22 octobre 2024. Les choses se sont accélérées après l'accident, résume Nairi Kemptemourian, consultante en communication judiciaire au sein du cabinet de communication Havas, qui aide pro bono l'association Antoine Aleno. Ce type d'homicide sur la route, c'est difficile d'en faire un homicide involontaire. Quand la personne a bu, qu'elle a volé une voiture, qu'il y a un délit de fuite, en quoi est-ce involontaire? Ça ne colle pas. On n'a pas souhaité tuer quelqu'un au volant. Mais le comportement initial est bien volontaire. La nouvelle catégorie pénale tiendrait compte des comportements délibérés antérieurs à l'événement et des circonstances non incontrôlées de l'accident. La liste en prévoit 9. L'état d'ivresse, la consommation de stupéfiants, la conduite sans permis, le délit de fuite, l'utilisation du téléphone, le refus d'obtempérer, le rodéo urbain, la violation délibérée d'une obligation et même le dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/h. Il faut 9 mètres par temps sec pour arrêter une voiture roulant à 30 km/h, la limite dans une zone scolaire. Il faut 36 mètres pour stopper une voiture filant à 60 km/h. Un piéton heurté à 40 km/h court 30% de risque d'être tué. La même logique s'appliquerait à un accident faisant un blessé avec cette fois la création d'un délit de blessure routière. La charge tiendrait compte des convalescences de plus ou de moins de 3 mois. Le crime remplacerait l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique. L'ensauvagement routier. Par contre, la proposition n'aggrave pas les peines maximales encourues par rapport aux dispositions légales en vigueur. Les défenseurs de la mutation, qui demandent de longue date la création de la qualification, dit l'introduction du projet de loi, mise sur des prononcés de peine plus sévères que celles observées depuis des décennies pour les homicides avec voiture. Les sanctions seraient de 7 ans plus 100 000 euros d'amende. Elles grimperaient à 10 ans et à 150 000 euros en cas de cumul de circonstances, par exemple la conduite sans permis et en état d'ivresse. Les fautifs sont rarement condamnés au maximum prévu et sont en général moins punis que dans les autres cas d'homicide involontaire. La nouvelle qualification pour homicide routier permettrait, selon ses partisans, de mieux faire prendre conscience de la gravité du crime et de réclamer des sanctions en conséquence, alors que les infractions choquantes font les manchettes. Laurent Carny, directeur de recherche à l'Université Gustave Eiffel, spécialiste de la sécurité routière, replace d'ailleurs tout le débat dans le contexte plus large du non-respect des règles au volant. La route devient le lieu de l'expression d'une colère entre individus. L'auto est utilisée comme une arme ou comme le moyen d'une transgression profonde, dit-il en citant le triste cas de Paul Varry, 27 ans, écrasé mortellement le 15 octobre à Paris par un automobiliste avec lequel il venait de se disputer. Un policier m'arrête, je refuse de m'arrêter et je fonce sur lui. Je heurte quelqu'un, je ne m'arrête pas pour lui porter secours. Le minimum d'humanité attendu. C'est une chose de ne pas respecter les règles, de conduire après avoir un peu bu, de dépasser les limites de vitesse. Là, on est face à des comportements différents, face à une forme de violence routière qui est le reflet de ce qui se passe dans la société. M. Carny ne veut pas présumer du sort que réserveront l'Assemblée nationale ou les juges de la République à la loi sur l'homicide routier. Il souligne par contre la transformation des mentalités signalée par le seul fait d'envisager cette petite révolution juridique. La portée symbolique peut être importante, dit-il. Le message envoyé par le pouvoir politique, c'est que nous sommes en face d'un problème public qui doit être pris en charge et qu'une solution doit être apportée. L'application des sanctions prévues serait déjà significative. Une loi ne peut porter ses fruits que si elle est effective. Il faut y mettre les moyens pour détecter les contrevenants. C'était « Comment punir les assassins au volant ?» un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 27 novembre 2024 dans Le Devoir.